Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro, c'est tout premier YouJob de l'année 2024, un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une solution technologique, on va parler technologie et avec un développeur, il a développé une solution importante, je le pense, et je pense que vous le trouverez aussi, une solution pour un déroulement meilleur des élections en République démocratique du Congo. Alors ironie du sort, il y a presque 2-3 semaines, les élections sont déroulées en République démocratique du Congo. Nous avons élu de nouveaux représentants au niveau national, provincial et même un nouveau dirigeant du pays. Alors, cette solution, Camille Olongo, c'est de toi d'ailleurs que
Congolo.
J'ai... Congolo, désolé. C'est de toi d'ailleurs que je parle. Bonsoir d'abord.
Bonsoir, Stéphie.
Voilà, un plaisir hein, de te recevoir dans YouJob.
Merci.
Avec toi, nous parlons technologie pour un déroulement meilleur des élections en République démocratique du Congo. Toi, avec ton équipe, vous avez développé une solution qui nous propose de bonnes choses en ces sens. Alors, élection, DRC, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nom de, de cette solution numérique. Ouais.
Non, plutôt rapidement choisi.
Non, rapidement choisi.
dans les contextes dans lesquels on se trouvait, élection RDC, élection DRC, tout le monde comprend directement. Ouais.
Alors, c'est quoi cette solution déjà? C'est vrai, moi également, je l'ai découvert sur Internet. J'ai lu la publication et j'ai lu ce que ça proposait. Et voilà, j'ai fait cette invitation pour que nos auditeurs puissent comprendre ce qui se cache derrière cette solution. On pourrait dire que c'est vraiment, ça devrait être très innovant, mais peut-être qu'il y a des risques. Tout ce qui, jusqu'à présent, ils ne comprennent pas de quoi on parle. Mais on aimerait d'abord savoir c'est quoi cette solution? Qu'est-ce que l'élection d'IRC propose?
La solution part d'un constat simple. On voit, surtout à Kinshasa, voire même dans le reste de la République, Marie, que ce n'est pas très répandu, mais s'il y a ce côté expansion de l'Internet, où tout le monde aujourd'hui se retrouve avec un smartphone, se retrouve avec une connexion. La solution part de ça, d'avoir une appli sur son téléphone qui te permet de venir, tu télécharges ta photo, ta carte.
Okay, oui, on aimerait vraiment des termes un peu plus simples. Parce que c'est vrai, vous êtes dans ces secteurs-là, mais il y a par exemple des fermiers qui nous suivent, exactement, qui ne pourront pas comprendre.
Ouais, je pense que j'avais utilisé des termes beaucoup plus simples.
Voilà.
Tu télécharges carrément ta carte d'électeur et on arrive à t'identifier. Et à partir de ça, tu peux procéder au vote, que ce soit au niveau présidentiel ou provincial ou national. Tu votes tranquillement et surtout l'aspect qu'on a voulu promouvoir derrière cette application, c'est l'aspect résultat en temps réel. Vous savez, moi, en 2018, je pense, l'élection passée, donc il y avait ces côtés où on suivait parce qu'il y avait mon grand frère qui avait postulé et tout. Donc on était là. Je me rappelle bien, il n'y avait pas de l'électricité, donc on suivait l'info au niveau de la radio. On était là tous vraiment hypés. Carrément dans un suspense. Et en attendant que la résultat soit dite. Et quand l'idée m'est venue, je m'étais un peu rappelé de ça, au fait, ces suspenses de ouais, ça se passe comment, quand ils arrivent à prononcer
À
proclamer, exactement. Donc, il y avait ces côtés aussi qu'on peut représenter ces suspenses-là, mais avec les côtés technologie du jour qu'on a, avec l'évolution des formats TikTok, format réel, où on peut avoir des émissions en temps réel du proclamation et avoir ces résultats qui montent aussi, de voir son candidat, ça monte, l'autre descend un moment, l'autre monte. Donc, c'est partant un peu de ces faits psychologiques, je peux dire, pour essayer de proposer cette solution. Vraiment pour permettre aux gens de voter aussi, de voir même les programmes des candidats qui ont postulé, de savoir vraiment qu'est-ce qu'ils prévoient par rapport à l'avenir du pays et d'avoir aussi ces côtés temps réel des résultats, en fait.
Donc, une application qui viendra remplacer la machine à voter.
Pas nécessairement, je m'explique, parce qu'on sait déjà que ça sera difficile d'intégrer cette application et que ça soit utilisé par tout le monde. Ça sera impossible. Il y a des coins dans notre pays, malheureusement, on n'a encore vraiment pas l'accès à l'Internet, on n'a pas accès à des outils peut-être qu'on peut retrouver ici facilement à Kinshasa et à d'autres provinces, mais il y a d'autres provinces un peu plus dans le fond, dans notre pays, où il n'y a pas ça. Donc, on sait que ça ne va pas remplacer vraiment la machine à voter, mais l'idée, c'est d'avoir les deux. Parce que moi, je sais que chaque technologie, quand ça arrive, il ne faut pas que ça remplace totalement l'ancienne qui était. Les systèmes avant, en fait, ça ne peut pas remplacer directement comme ça. Ça, c'est pas top. Donc, du coup, il y a ces côtés, il faut toujours ramener les gens petit à petit pour adopter cette nouvelle technologie. Donc, oui, on peut garder la machine à voter, faire en sorte qu'avec peut-être des technologies qui peut être là, que quand quelqu'un vote là-bas, ben, il ne peut plus venir voter dans l'application, vu que tout est centralisé. L'idée, ça sera vraiment de faire ça, décentraliser tout et la machine à voter. Et l'application, de sorte que pour ceux-là qui ont la possibilité de voter depuis l'application, de suivre les résultats depuis l'application, ben, de voter calmement. Et pour ceux-là qui n'auront pas cette possibilité-là, d'aller voter avec l'ancien système de machines à voter.
Alors donc c'est une initiative, une solution que vous avez proposée et que vous avez développée d'ailleurs. Aujourd'hui, on est à quel niveau? Les élections viennent de se dérouler. Est-ce que vous avez approché la commission électorale pour lui proposer cette innovation?
Bon, non, en tout cas, l'idée c'était de faire les prototypes, vraiment de faire un MVP rapidement possible. Et de poster d'abord sur LinkedIn avec la petite communauté qu'on a là-bas et d'essayer un peu de taguer, d'essayer de partager, d'attirer leur attention. Personnellement, j'ai pas vraiment de contacts et ben, c'était fait aussi à la va-vite parce qu'une fois qu'on a fini, directement on a posté. Mais après ça, on compte vraiment poursuivre ça dans ce sens-là, de voir comment on peut les approcher, comment on peut faire. Apprendre aussi plus par rapport à la machine à voter, parce qu'on avait fait ça, on ne savait pas du tout comment la machine à voter marche déjà, quelle est la technologie derrière. Mais l'idée, c'est d'aller poursuivre un peu ces processus-là, apprendre plus, comme je l'ai dit avant qu'on lance l'émission. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait pour que ça soit utilisé par rapport aux élections qui viennent de se passer. Mais pour que ce soit une solution dans l'avenir, au fait.
Ce soir, je reçois donc Camille Kongolo. Vous l'avez compris, il est développeur web et facilitateur robotique et coding. C'est dans ce secteur qu'il évolue et c'est d'ailleurs pour cette raison également qu'il nous fournit cette solution digitale, cette technologie qui pourrait permettre un déroulement des élections meilleur, selon lui. Et je l'espère que vous adhérez aussi à sa vision. Alors, on comprend que ce sera une solution qui viendra permettre à des utilisateurs d'aller voter sans se déplacer.
Exactement.
On peut aller au boulot, donc même si normalement le jour des élections on ne sort pas, ou soit on peut rester à la maison sans fournir assez d'efforts, comme on a la connexion d'habitude, on vote. Et même aussi à ceux qui sont à l'étranger, ils auront la facilité de voter. Mais maintenant, alors il y a beaucoup de questions derrière. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est important aujourd'hui?
Je le pense.
Pourquoi?
Dans le sens où moi-même j'ai été un peu dans ces mondes-là, dans cet aspect-là de comment les élections s'organisent un peu et quel est le suspense qui en découle derrière, au fait. Comment on fait une campagne carrément électorale. Je pense que oui, ça peut être une solution très idéale. Avec ces mondes qui développent chaque jour, surtout moi, pour l'instant, je n'ai pas fait vraiment des voyages pour voir ce qui se passe dans les autres provinces, mais je sais qu'à Kinshasa, avec les côtés technologiques qui avancent vraiment de manière ultra rapide. Je pense, oui, c'est quelque chose d'important qui doit être mis, au fait, à disposition de tout le monde.
Alors, pourquoi j'ai posé cette question ? Parce qu'aujourd'hui, on remarque hein, qu'il y a des projets et des innovations qui viennent. Mmh. Certains sont de projets parce qu'on a imaginé, parce qu'on a pensé. Mmh. Parce qu'on s'est dit, voilà, je peux créer ça. On a juste imaginé. Mmh. Mais on n'a pas pensé aux besoins. Mmh. Mais il y a d'autres projets qui viennent parce qu'ils voient qu'il y a les besoins réels. Alors, ma question, c'est de voir, est-ce que vous avez quand même approché la population ? Parce qu'à un moment, vous avez dit au départ que c'était fait à la va-vite. Est-ce que c'était dû aux besoins ou dû juste à vos capacités de développer des applications incroyables ?
Alors, on n'a pas fait les côtés où on essaie de se rapprocher du public, du grand public, pour demander est-ce que ça serait important d'avoir tel outil qui te permet de voter.
Est-ce que la population a vraiment besoin de voter en ligne ?
En ligne et tout, et de suivre des émissions en direct, de voir les résultats en temps réel, comment ça monte. On n'a pas fait cet approchement. Comme je l'ai dit, ça a été fait par rapport d'abord à mon expérience à moi pendant les élections coulées. Mmh. Donc, et des deux, par rapport à ces côtés, ok, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Et voilà.
Alors, quelles sont les fonctionnalités de cette application ?
Déjà, il y a les votes. Déjà, il y a les votes, premièrement. Et puis, il y a les côtés temps réel, comme on a dit. Tu as le suspense voilà, qui monte. Crescendo, tu vois comment ça monte.
Alors, à chaque fois que quelqu'un vient voter, il chiffre.
Exactement, il y a ces côtés-là, ça swipe. Et puis, il y a les côtés, tu peux surtout voir les programmes, en fait, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas vous, peut-être, mais c'est toujours très rare, surtout pour nous les jeunes, d'aller vraiment tester ou voir les programmes que proposent les différents candidats qu'on vote, en fait. C'est difficile. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui nous écoutent, qui partent vraiment, à moins que ce soit vraiment des gens très calés dans la politique. Mmh. Mais je vois très peu de jeunes pour voir, OK, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi propose comme programme pendant les 5 à suivre, par exemple. OK, c'est très rare de trouver ça.
Donc, sur l'application, on trouvera également le programme de tous les candidats.
Exactement. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose de mieux. Ça permet à la personne, quand il arrive, de ne pas seulement voter aveuglément. OK, il sait voir, OK, il a ça, il pense ça, le président pense ça, pense ça. Et par rapport à moi, c'est mieux au fait que je mette que je puisse voter pour lui, au fait. Parce qu'il y a son programme qui cale un peu, qui va un peu par rapport à ma vision, comment je vois le pays avancer. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très important, d'avoir ces programmes-là en quelques clics. Tu entres, tu fais la recherche de ton candidat et voilà, tu trouves tout. Je pense que c'est...
Donc, ce sera vraiment quelque chose de cool, je pense. Oui. Et donc, la commission saura l'accepter. Mais avant d'y arriver, il y a encore beaucoup de questions par rapport surtout à la transparence. Alors, qu'est-ce qui va garantir la transparence des résultats, étant donné que c'est un outil qui a été créé et qui peut être manipulé ?
Alors, je vais vraiment tâcher de répondre de manière très honnête parce qu'on est un peu dans le milieu technologie, on sait un peu comment ça fonctionne. On sait qu'à un moment, il y a des applications qui se créent. Ça a été des cas de beaucoup d'applications connues aujourd'hui, Facebook, TikTok et tout. Au début, on crée l'application, on est libre et tout. On essaie de rendre les données de la meilleure possible que ce soit. Mais il y a ces côtés où les gouvernements, où les grands, quoi, les dirigeants, si on peut dire, vont venir essayer un peu d'imposer leur logique. Facebook a vécu ça. TikTok a vécu ça. Il y a toujours un moment quand ça prend de l'ampleur, tu ne peux plus décider seul, au fait. Mais moi, je pense que c'est une question... Qui dépend d'abord de la sincérité. Vraiment, je vais essayer de répondre de manière honnête, de la sincérité
Alors, l'homme, en tout cas, il ne faut jamais faire confiance à la sincérité des humains, parce que l'homme est corruptible.
C'est ça, mais...
Qu'est-ce qui vous garantit qu'aujourd'hui, parce que vous qui avez initié...
Mais là où, en dehors des faits que ce soit, de ce que je viens de dire, là où ça peut être aussi garanti, que là, c'est ce que je trouve encore mieux dans la technologie, c'est que ça peut surpasser ces côtés corruptibles qu'on peut, on peut dire. Corruptibles.
Oui, comment dire,
dans les technologies qu'on peut mettre là-dedans, qu'on peut mettre derrière ça.
En fait, ça va se passer comment? Parce que oui, je vais voter. Il y a mon identité, il y a mon nom qui apparaît, par exemple. Alors ça, c'est une autre question d'ailleurs que je vais poser après. Mais revenons d'abord dans le sens où on cherche des résultats qui sont transparents. Qu'est-ce qui va garantir cette transparence qui, voilà, cette tel candidat n'a pas bénéficié de robots, par exemple, ou est-ce que ces votes n'ont pas été truqués, boostés?
Alors, il y a des technologies qui permettent de surpasser ça, qui permettent vraiment de surpasser le côté humain. J'ai duplique mes données, on me vote une fois, ben, j'ai duplique ça par 100. Bon, je vais donner par exemple l'exemple de la technologie blockchain, qui permet vraiment d'avoir une traçabilité. Alors, une traçabilité vraiment claire et nette de tout ce qui se passe en termes de technologie et en d'autres termes par rapport à notre contexte à nous de vote, d'avoir vraiment toute une historique des manières, les termes qu'on utilise souvent, des termes pour faire ça simple, avoir vraiment une historique claire et nette de chaque individu, de chaque Congolais qui a voté.
Alors ça, c'est à deux dimensions ma question, parce qu'il y a le côté où l'utilisateur, c'est-à-dire le votant, l'électorat cherchera à savoir oui, j'ai voté pour telle personne, mais comment telle autre a plus de voix que mon candidat? Alors je cherche à savoir, est-ce que ça n'a pas été triqué? Ça, c'est la population qui se pose les questions. Exactement. Mais ça peut aussi arriver que alors, en se posant cette question, la réponse peut être à deux niveaux. Il s'est dit, ah, c'est qui? Parce que si cette application est validée par la commission, c'est la CENI maintenant qui gère en fait le système. Ça veut dire que c'est la CENI qui peut-être, parce que je ne dis pas que c'est le cas, mais aujourd'hui déjà le vote s'est fait avec des bulletins de vote, on dépose dans les urnes et tout, et puis on fait même les comptages, les dépouillements et tout, on a les résultats, mais on accuse quand même la commission les truquer. Alors ça, c'est digital, c'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise vraiment, on n'a pas tous la maîtrise et du système et de comment le vote sont comptés et augmentent. Ça, c'est ce qui sera compliqué pour les utilisateurs de comprendre comment ça se passe. Exactement. Si vous parlez du système, donc venez de dire qui garantirait la sécurité, oui, ça c'est en interne, c'est par rapport à vous, par rapport aux utilisateurs.
Alors là, je vais tâcher de répondre encore plus de sorte que tout le monde puisse comprendre. Bon, il y a quelque chose que Einstein a dit. On ne règle pas un problème au niveau de la conscience qu'il a été engendré.
Donc, ça veut dire?
Ok. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a déjà un problème où, au niveau de notre pays, tout ce qui est aspect technologie est vraiment très peu avancé, au fait. C'est pas vraiment compris pour tout le monde. Et il n'y a pas vraiment assez de structures qui permettent de former les gens là-dessus, pour qu'on puisse avoir la même confiance. Tu vois, par exemple, moi, quand je parle des blockchains, un autre développeur comprend, quelqu'un qui est informé comprend directement. OK?
Alors que c'est impossible, même partout dans le monde, tout le pays ne pourra pas, en tout cas, avoir assez de connaissances technologiques, surtout approfondies comme ça.
Exactement. Alors, je pourrais dire la meilleure des façons de les faire, c'est progressivement, comme je l'ai dit. La CENI, bien sûr, aura la main mise sur la chose. De toute façon, les élections, il y aura toujours des personnes, peu importe, même si cette personne-là sait que c'était bien, il y aura toujours des gens qui vont contester la publication. Donc, c'est vraiment d'aller progressivement. C'est-à-dire, par rapport à ce que je viens de dire, on ne règle pas les problèmes avec le même niveau de conscience qu'il a été engendré. Donc, c'est-à-dire, les problèmes qu'on a, comme j'ai dit, l'aspect qu'on apporte de voter tranquillement depuis chez soi, d'avoir les résidents en temps réel, ça doit être mis de manière progressivement, de sorte que les consciences des Congolais maintenant, au fur et à mesure, avec la technologie avance, que ça évolue aussi. De sorte que quand on arrivera vraiment à installer, à avoir un peu 60% confiance à la technologie, qu'on puisse pas avoir ces côtés, tu dis, les gens se posent des questions, mais je suis pas sûr, non, pour moi c'est il y a si la personne que j'ai voté, c'est lui qui doit passer, non. Donc ça doit aller vraiment de manière progressive, des sortes qu'on avance et que ça puisse être accepté, au fait.
Si je comprends bien, cette application viendrait également résoudre un problème des logistiques qu'on rencontre souvent lors des élections. Cette année, on a encore vu des machines qui arrivent en retard ou qui sont endommagées. Mmh. C'est un problème, un souci logistique. Ouais. Alors, quelqu'un qui vote de loin a le moyen de bien le faire.
Ça permet de minimiser vraiment les côtés où on déploie les machines dans les zones. On remarque qu'il y aura peut-être moins de votes au niveau de l'application.
Mais j'ai une question encore là. Ma question est de savoir, oui c'est vrai, ça va résoudre un problème logistique, mais par rapport au contexte du pays, alors on va limiter cette utilisation à un certain nombre juste de la population. Ça veut dire, vu qu'il faut voter, donc il faudrait aussi...
Avoir un smartphone.
Chercher à avoir un smartphone.
Une connexion.
Il faudra avoir l'application, il faudra avoir une bonne connexion, il faudra avoir tout ça. Et ce n'est pas tout le monde déjà. Mmh. Aujourd'hui, on parle de même WhatsApp, ce n'est pas tout le monde qui a WhatsApp, par exemple, alors que c'est très utilisé. Ouais. Donc, par rapport à ces problèmes-là, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faudrait passer par une certaine formation? Le vote, il est secret d'abord. Est-ce qu'il faudrait faire accompagner des votants à des personnes? Parce qu'il y a même même dans nos familles, il y a de mamans, de papas, de parents qui ont des téléphones, mais ils ne maîtrisent même pas l'utilisation
de
ces téléphones. Ouais. Alors, ça, c'est un véritable problème dans
un
pays.
Comme je l'ai dit, c'est un souci qui ne se règle pas tout de suite comme ça. C'est vraiment progressif, vous savez.
Alors, est-ce que ça ne va pas faire coûter aussi à cette commission qui, aujourd'hui, par exemple, avait besoin d'1 milliard pour organiser des élections?
Un milliard, c'était, je pense, quand il s'agit de déployer les machines, je pense que ça coûte plus que quand il s'agit que quelqu'un met 3 000 francs, 1 giga.
À plusieurs niveaux, il faut faire la vulgarisation.
Ouais, exactement.
Communiquer là-dessus. Ouais. Il faut chercher, il faut aller et aussi former, éduquer comment il faut utiliser cette application et tout ça, ça coûterait également.
Je pense pas que.
Ça coûterait pas plus.
je pense pas. Bon, je peux pas donner des détails vraiment parce que je ne sais pas vraiment. J'ai pas de données réelles sur lesquelles je peux m'appuyer.
Mais par rapport à vos estimations, quand même, si vous espérez lancer, si aujourd'hui la commission acceptait quand même de faire recours à cette application, vous l'avez dit au départ, ok, vous serez d'accord pour associer aussi les machines à voter parce que c'est pas tout le monde qui a d'abord un téléphone aussi. Exactement. C'est pas tout le monde qui a un smartphone. Alors, vous pensez que cette application pourrait couvrir un seul de combien de votants pour une première?
Déjà, c'est que je suis la chose dont je suis sûr, déjà au niveau à Kinshasa ici, comme j'ai dit, on peut déjà retrouver 60%
de la population.
60% de la population qui peuvent voter. Ça peut déjà être quelque chose de bien. Sachant que la personne. Ça peut être fait comment? Dans le sens où je peux voter. Ok, j'upload ma carte, je vote. Ok, mais en même temps dans la parcelle, si j'ai un smartphone, mais je peux permettre à d'autres gens de voter depuis mon téléphone. Il suffit que je me déconnecte. Je ne sais pas si tu vois, je me déconnecte. Quelqu'un d'autre upload sa carte, vote. C'est-à-dire quelqu'un qui a un téléphone, il a déjà en quelque sorte une machine à voter. Je ne sais pas si tu vois.
Je comprends bien. Alors là, il y a quelque chose. On parle souvent du caractère secret vote.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Est-ce que cela ne pousserait pas à enlever les caractères secrets du vote puisqu'il faudrait publier aussi peut-être les identités de personnes qui ont voté pour créer de la transparence? C'est-à-dire que, comme tu l'as dit...
D'où j'ai parlé des blockchains. Avoir cet historique-là
comme tu le disais, qu'on aura les résultats en temps réel. Ça veut dire qu'on a aussi les identités de toutes les personnes qui sont en train de voter. Alors ça, les côtés...
transparence déjà.
Transparence, oui. Mais les côtés secrets du votant est mis de côté parce qu'on dit que quand tu vas voter, c'est toi-même qui connais la personne que tu as voté. Mais là,
en bac, tout le monde sait des personnes qui ont les scrutins savent que tu as voté telle ou telle personne. Bon, comment dire, cela comme j'ai dit, c'est un processus en fait. C'est vraiment un processus, c'est de voir comment on peut intégrer la technologie avec l'aspect congolais, avec les contextes congolais. Moi, il y a quelque chose que je me dis toujours, chaque technologie, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, chaque technologie passe toujours, ou chaque innovation, surtout innovation, passe toujours par ces trois phases. Il y a d'abord la phase où c'est ridicule. Des gens disent que c'est ridicule. Ah, quelqu'un va voter sur son application, c'est ridicule ça. Et puis ça revient sur la phase dangereuse. Et est-ce qu'on est encore sûr vraiment des résultats? Comment c'est pas truqué? C'est de l'informatique, c'est-à-dire ils peuvent dupliquer la data. C'est dangereux. Mais puis à un moment, ça devient évident. Oui, mais tout le monde devait voter sur son téléphone. Donc, les gens à l'époque, allez, votez donc. Je ne sais pas si tu vois, parce que l'Internet lui-même...
Je suis d'accord en tout cas,
Il est passé par là, chaque innovation passe par là. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller avec ça de manière progressive.
Ok, je suis d'accord, mais la grande question reviendrait en tout cas par rapport à la fonctionnalité, sûrement. Parce que l'innovation, moi je pense que c'est vraiment une très bonne innovation. Et j'ai compris aussi les fonctionnalités, mais comment ces fonctionnalités vont marcher, et aussi par rapport aux réalités. Alors si je comprends bien, vous avez développé les côtés technologiques, mais vous êtes prêt à vous adapter avec ce que la commission peut mettre en place, ou ce que la loi prévoit en fait. Donc c'est comme ça que vous allez marcher.
Parce qu'il faut savoir, bon, déjà on n'a pas des informations énormes sur ces processus là. Je ne fais pas partie de la CENI, je suis un développeur qui a été confronté à une expérience par rapport à ça.
Et donc si vous allez encore une fois rencontrer ces dirigeants de la commission et qu'il y a certaines réalités auxquelles il faudrait donc se conformer, donc l'application pourrait être retravaillée, revue.
Exactement. Moi j'ai proposé l'idée. L'objectif derrière, c'est d'avoir des gens expérimentés là-dessus, qui ont organisé l'élection, en d'autres termes la CENI, qui peuvent nous apporter une expertise énorme, des problématiques, pourquoi pas, de ce qu'ils rencontrent sur le terrain. D'ailleurs, de toute façon, c'est comme ça que le monde évolue. On a des problèmes, on essaie de les résoudre. Et dans ces cas-ci, on essaie de les résoudre avec la technologie de manière simple et rapide. Donc, moi, je pense qu'avec eux, ils peuvent vraiment être un support d'aide très, très nécessaire pour nous. Comme ça, on sait voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place ces projets. Et comment, comme tu as posé des questions, notamment par rapport à la finance, ben, toutes ces questions-là, ça se met sur la table et ça discute là-dessus pour voir comment on peut trouver des solutions, que ce soit des manières financières ou des manières technologiques en soi, des manières comment promouvoir ça, comment vulgariser ça. Ce sont ces questions, normalement, à quoi on doit répondre, ben, nous et la CENI, bien sûr.
Alors, vous travaillez sur ces projets depuis quand?
Ça fait pas longtemps, c'est un mois. Un mois. C'est pas longtemps, comme je l'ai dit. Heureusement, moi j'ai un.
Est-ce que c'est pas fait à la va-vite?
Un prototype. C'est un prototype. Prototype, déjà, c'est ça l'objectif, c'est de présenter quelque chose de manière le plus rapide. On peut parler aussi des MVP, donc un produit minimum qui a des fonctionnalités très minimum, mais qui présente l'idée derrière ça. Sinon, si ça doit être développé de A à Z, vraiment avec tous les risques, tu comprends bien qu'on ne va pas être à trois personnes derrière pour les faire. C'est une équipe, carrément. Il faut mettre beaucoup plus de ressources humaines, beaucoup de développeurs, beaucoup de gens qui entourent les domaines de l'élection et tout, etc. Il faut mettre une équipe, vraiment. Je ne pense pas que ce sera une équipe de trois personnes, vous voyez. Donc, nous, on a proposé les prototypes, on a eu l'idée derrière. Et on a essayé de faire un prototype le plus rapidement possible. Je me suis mis un mois. Donc, j'ai d'abord essayé de regarder comment ça se passe et tout, noter quelques idées. Et comme j'ai le côté aussi design, UX, ça me permet de créer des templates rapidement. Et comme je suis développeur aussi, ça me permet d'intégrer des interfaces rapidement et de présenter. Voilà.
Et c'était facile?
C'est pas toujours facile. Il faut être inspiré. Mais après, je pense que j'ai l'expérience, peut-être. qui fait que je puisse aller vite, que je ne trouve pas ça difficile, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que j'ai fait déjà. Ce n'est pas le premier prototype que j'ai fait. D'ailleurs, peut-être, je pense, en janvier ou février, je vais sortir encore un autre projet dans ces sens-là, parce que depuis un moment, j'essaie vraiment de trop voir ce qui se passe dans les pays, les choses qui se passent en RDC, et de trouver des idées comme ça. Et de proposer des prototypes, mais au risque même que ça soit peut-être volé et développé rapidement chez quelqu'un d'autre. Mais voilà, je me dis, tant que ça aide le pays, ça aide la RDC à aller de l'avant, ben, vaut mieux, si Dieu m'inspire, vaut mieux que je puisse mettre ça, que tout le monde puisse savoir que voilà, il y a telle personne à proposer telle idée, ça peut être génial. Peut-être qu'il n'a pas les ressources de développer ça, ben moi je vais les faire, ou nous on va les faire, même sans lui. Mais on avance quand même.
Alors avant de parler d'autres projets, on reste encore sur Election DRC. Aujourd'hui, en phase des développements, c'est déjà un prototype qui a été mis en place. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire?
Alors,
la prochaine étape, c'est quoi?
La prochaine étape, c'est vraiment ce qu'on appelle l'infrastructure, c'est-à-dire tous les systèmes qui vont venir sécuriser ça derrière, en fait. On a parlé du côté sécurité, du côté transparence. Donc, ça sera vraiment de voir avec les gens de la CENI, de voir les problèmes qu'il y a actuellement dans tout ce qui est dans tous les processus de vote, de voir comment est-ce que c'est sécurisé derrière, en fait. Et maintenant, nous, en termes techniques, ça sera l'idée. L'idée, ça sera maintenant de mettre des infrastructures nécessaires, donc une data center s'il faut. Qui va contenir les données, comment on peut mettre aussi la blockchain là-dedans pour avoir vraiment une transparence très très claire de tout ce qui s'est passé dans les processus de vote, et puis d'avoir aussi des côtés peut-être sécurité, parce que vous avez parlé, je vois que c'est très important qu'on puisse pas savoir qui, comme on a dit, c'est quelque chose d'en coulisses, en fait. Je vote, personne ne sait, quoi. Donc trouver un moyen de mettre ça aussi dans la plateforme. Vraiment, c'est la partie infrastructure, parce que là, on a développé la partie front, qu'on peut dire, qui représente les prototypes de comment ça va marcher. Tac, 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 on appuie ici, on fait ça, et voilà, ça va marcher comme ça. Et l'idée derrière, maintenant, c'est avoir l'infrastructure, donc le backup derrière, qui va gérer toutes ces données-là.
Intéressant, Election IRC. Alors, avec l'équipe, vous pensez qu'on peut utiliser cette application en 2038?
Si, oui. On a encore 5 ans, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup.
Voilà, donc il faudra entamer des discussions avec la commission pour les convaincre. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez mettre en place, hein? Comment comptez-vous faire, hein, pour convaincre l'opinion, mais surtout la commission électorale d'abord, mais après l'opinion également, parce que c'est vrai, ce serait une solution qui doit être aussi acceptée par l'opinion.
Exactement. Ben, dans ces sens-là, pour l'opinion, moi, je pense qu'il faut essayer de communiquer vraiment là-dessus. Pourquoi pas de faire en sorte de communiquer sur un contexte qui montre un peu les avantages qu'on a à voter directement depuis l'application. Ou voire même, pas seulement depuis l'application, mais des avantages que maintenant la CENI va offrir, au fait, pour les élections à venir, au fait, pour vraiment essayer de dire, ok, on va lever tous ces côtés où on ne comprend pas les résultats, tel a été plus voté, mais tel a été élu, tous ces côtés-là, au fait, que les gens se posent, tous ces côtés contradictions, essayer un peu que la CENI communique sur les nouveaux systèmes, pas la technologie en soi, mais vraiment les nouveaux systèmes qu'il a mis en place pour essayer d'enlever toutes ces frictions, en fait, que la population a à chaque publication de l'élu.
Alors, si votre application n'avait pas été acceptée, que feriez-vous?
Déjà, au moment où j'ai publié, je vais dire que tout ce qui va venir après, c'est pas grave. L'idée, vraiment, en soi, comme je l'ai dit, il n'y aura pas que ça. Vous allez voir que je suis sûr que tu vas me réinviter. Okay. Il y aura des choses qui vont venir.
Okay. Donc, il y a d'autres solutions qui sont en train d'être développées. Ouais,
exactement. Et l'idée, c'est, ok, on met. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On a sémé quelque chose. la nouvelle génération, il y aura toujours quelqu'un qui va venir, va prendre et va continuer avec.
Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer d'abord avec de petites étapes et puis commencer à monter des niveaux? Pourquoi pas proposer ça, par exemple, à l'ESU, où je vois on vote de président des étudiants, par exemple.
Exactement. Ça peut être une idée aussi à exploiter. Voilà, on a la technologie. On sait un peu comment ça marche derrière.
Ben, peut-être quand on voit que là-bas, ça a marché.
Ça marche. Exactement. C'est ce que j'ai dit. C'est progressif, au fait. Ça prend du temps. C'est progressif.
Voilà, donc c'est YouJob, mesdames et messieurs, la passerelle entre l'employeur et l'employé. Ici, nous discutons innovation, nous discutons projet et initiative professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes vraiment intéressés à ce que nous avons vu sur Internet avec Camille Kongolo. Il est développeur web et aussi facilitateur coding, mais également en robotique. D'ailleurs, on va chercher à savoir c'est quoi ce que vous faites dans ces métiers-là de développeur aussi. De facilitateur. On s'est intéressé à sa nouvelle solution, c'est encore en prototype, mais c'est déjà quelque chose de développé. Faciliter les élections à travers une application, à travers les smartphones. Vous avez compris comment ça pourrait fonctionner. On avance déjà vers la fin de l'émission. Alors, moi, j'aimerais savoir maintenant comment on peut faire. Maintenant, on peut faire pour savoir ce que vous faites, comment vous avez, vous êtes arrivé là en tant que développeur, et puis c'est quoi exactement votre métier?
Souvent, quand je me présente, je suis développeur, là, 80% des gens ne comprennent pas. Je me rappelle la première fois qu'on me présente à l'église, Camille Kongolo, il est développeur, la salle était là.
Il développe quoi?
Il va développer notre église. Ça, c'est un terme qui n'est pas encore vraiment connu du grand public. Quand tu te présentes, tu es avocat, tu es médecin, les gens capent direct. Mais quand tu dis développeur, c'est un peu encore compliqué. Mais pour faire simple, on dit développeur parce que nous sommes dans le contexte numérique, contexte technologie. Et dans ces contextes-là, on va essayer de développer des choses. D'innover, en fait. Voilà pourquoi on dit développeur, mais on peut aussi dire programmeur. Mais développeur, ça sonne mieux.
Développer des choses, quelles choses?
Développer des outils, en fait. Des choses comme des applications, okay. Des sites web, des outils aussi qui peuvent aider et faciliter la vie des gens.
Et à côté aussi, facilitateur robotique.
Et là, à côté facilitateur, là, c'est les côtés pédagogues qui est en moi, qui veulent transmettre ses connaissances aux jeunes gens. Donc ça, c'est le côté facilitateur. On dit facilitateur et on ne dit pas enseignant parce qu'on s'est dissocié un peu du cadre de l'enseignement, entre guillemets, nous on appelle ça ancienne, qui est mise en place en RDC. Nous, on est plutôt dans l'autre type. Donc du coup, on ne s'est dit pas enseignant, on s'est dit facilitateur parce qu'on est là juste pour faciliter la compréhension de la chose. Chez les jeunes, en fait.
Alors, c'est quoi la chose? Donc, facilitateur robotique et coding, là encore, vous apprenez ou bien vous facilitez la compréhension de la fabrication de robots ou comment?
Alors, ça se passe comment? Alors, nous, on a une méthodologie qu'on appelle le learning by playing. Donc, c'est-à-dire l'enfant.
Robot et Kezong.
Là, pour faire simple, c'est apprendre, mais tout en jouant, en fait. Okay. C'est-à-dire, comme on est dans un cadre où on forme des enfants de 7 à 17 ans, ils sont en train de jouer en quelque sorte. C'est comme on le dit, ils sont en train de jouer, mais derrière ce jeu, ils apprennent des choses.
Donc, c'est la méthode que vous utilisez pour apprendre aux jeunes gens.
Ils apprennent quoi, en fait? Alors, ils apprennent deux choses. On a l'axe coding, qui est l'axe de ce que moi aussi j'ai fait, le développement. Donc, où ils vont apprendre à créer des sites web, à créer des applications, à comprendre les bases de l'informatique, de la programmation. Okay? Et puis, ils ont l'axe robotique où c'est orienté un peu côté ingénierie, où ils vont apprendre comment rassembler les pièces pour faire tel robot. Et puis après, la fabrication de ce robot, la construction de ce robot, comment je programme ces robots pour qu'ils marchent, pour qu'ils fassent des actions, pour qu'ils sautent, je ne sais pas. Ça dépend de ce que l'enfant veut. Mais souvent, vous allez voir qu'ils arrivent. ils vont essayer de construire, je sais pas moi, une voiture, mais cette voiture là aura la possibilité de détecter je sais pas moi, un mur quand il avance et de changer de direction. Donc ils jouent, pour eux c'est un jeu, j'ai construit mon robot avec des pièces, mais ils apprennent. Ouais. Derrière ça, ils apprennent.
Génial comme méthode. Donc mais en même temps, vous avez parlé d'autres projets développés par Camille Longo,
Kongolo.
Pourquoi c'est Olo. Camille Kongolo. Alors quelles sont les autres applications ou solutions que tu as développées personnellement?
Alors bon, je pense que j'ai développé déjà plein d'applications, mais le plus connu d'entre elles, c'est l'application mobile des Top Congo. Vous savez, Top Congo aujourd'hui, la radio Top Congo a une application mobile qui te permet de suivre la radio en direct. Et, je pense que c'est l'application que j'ai développée pour les cas des Top Congo. Et bon, je vais dire c'est mon chef-d'œuvre, c'est l'application qui est un peu connue sûrement, mais derrière ça, j'ai une application qui s'appelle Butterfly. C'est pas seulement une application, ce sont des cartes de visite électroniques. À la place d'imprimer des cartes sans cartes à papier carte, je sais pas si vous voyez des cartes de visite en fait.
OK, en papier. Alors finalement, donc il y a SIM card également qui
exactement
qui est chose qu'on a réussi également dans
YouTube. Ouais, qui est un de nos concurrents avec
un concurrent. Alors il y a déjà une grande concurrence.
Non, pas vraiment. C'est une carte, j'ai le cofondateur d'ailleurs qui a malheureusement nous a quitté, Nathan. C'est un ami. On était proches. On se voyait souvent, surtout dans des conférences tech et tout. Mais j'avais vu quand il a fait le post de SIM card, il a vraiment poussé la communication. Alors nous, on avait déjà développé Butterfly, mais on n'était pas vraiment dans l'aspect marketing. Nous, on était plus dans l'aspect contact. On travaillait avec des entreprises, mais on postait pas vraiment. Malgré que là, on commence un peu à poster.
SIM card vous a inspiré?
Non, pas inspirant. On savait qu'à un moment,
c'était
pas encore prévu. On était beaucoup plus dans les coulisses parce qu'on testait beaucoup vraiment la solution.
Chacun a sa stratégie.
Ouais, chacun a sa stratégie. Et nous, on a voulu adopter la stratégie d'Elon Musk. Vous savez, lui, il dit souvent, vaut mieux, à la place de concentrer un max de budget sur la communication, vous pouvez prendre ces budgets-là, vous les mettez pour développer votre produit. Et je pense, en tout cas, je suis d'accord avec lui, c'est une stratégie qui gagne à la longue. Parce qu'au lieu de toujours communiquer et en retour de ne pas avoir le produit qui marche, ben vaut mieux
alors
avoir
ça, j'espère qu'on va
marche.
Rentrer on va rentrer dans un autre débat qui est d'ailleurs aussi un sujet que nous allons traiter cette année, hein, l'impact de la communication dans la réussite d'un projet. On en parlera cette année déjà, c'est prévu dans le programme. C'est un autre débat en tout cas très grand, mais on parlait plutôt des autres solutions, c'est-à-dire vous avez développé Butterfly, vous avez dit, et autre encore à part solutions.
Il y a Top Congo, oui. Ça c'est le côté client. Mais personnellement, il y a une app aussi qui vient. Je ne vais pas trop spoil.
Ok, bah c'est pas encore sorti.
Je ne vais pas trop spoil, mais.
Même si ici, c'est aussi des exclusivités. Ça va, on le veut rien.
Ben, vous le verrez bientôt. Mais okay. Ce qu'il faut savoir, c'est lié au contexte de ce qui s'était passé malheureusement dernièrement à Kinshasa, les phénomènes d'enlèvement. Okay. C'est lié à ça.
Il y a une forte concurrence alors finalement sur les solutions technologiques, parce qu'il y a 4 mois nous avons également reçu
j'ai vu les posts, ouais. j'ai vu mais je pense que non, on est loin.
Ok, d'accord, nous avons bien la bonne concurrence. Alors un dernier mot, parce qu'on est déjà arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui.
Déjà merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et ben, je dirais à celles et ceux qui nous suivent maintenant, après, je pense que le podcast sera publié après. Je vais parler beaucoup plus pour le côté numérique. Je pense que c'est un domaine, c'est un métier sur lequel vraiment beaucoup de gens doivent maintenant s'appuyer. Que même les gouvernements doivent pousser vraiment plus la balle de ces côtés-là. Parce qu'on voit que ça change. Le monde évolue et nous, la RDC, on doit évoluer. Et puis, c'est un domaine qui crée vraiment de l'emploi. Nous, on se retrouve, on est jeunes, mais avec le peu qu'on gagne dans ces domaines-là, tu arrives à créer de l'emploi, tu arrives à prendre ton ami, telle personne, tu as au moins deux personnes, bon, qui ne sont pas tes employés, mais avec qui tu travailles, tes partenaires, et vous arrivez quand même à survivre, au fait, par rapport à ça. Donc, c'est un domaine vraiment qui crée vraiment de l'emploi et qui est un domaine du futur, vraiment du futur. Et que tout le monde puisse vraiment se mettre là-dessus et que notre gouvernement aussi puisse mettre vraiment les ressources nécessaires pour pousser effectivement.
Comment vous contactez
les gens? Je suis déjà sur LinkedIn. Ben, vous pouvez d'ailleurs taper juste Camille Kongolo sur Google. Je suis sûr que vous allez tomber sur moi. Et sinon, je donne mon numéro.
Sans problème.
Plus des 53 82 40 29 562, donc 082 40 29 562. Donc là, vous allez avoir mon WhatsApp et on peut bien discuter.
Camille Kongolo, un plaisir de vous recevoir dans YouJob. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi l'émission de ce soir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle thématique.
Merci beaucoup.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.